VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Ici à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Attaque terroriste au Mali, le chef adjoint de la région militaire de Gao dans le nord du pays et un frère d'armes ont été tués mercredi lorsque leur escorte militaire est tombée dans une embuscade sur l'axe Gossi-Ombori. Au sud-est de Gao, chef-lieu de la région et plus grande ville du nord malien. Plus de précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est au cours d'une de ces escortes traditionnelles qu'un convoi de l'armée malienne est tombé dans une embuscade, quelques minutes seulement après avoir quitté Gossi pour Ombori. L'un des véhicules de l'armée malienne a même sauté sur une mine. C'est dans ce véhicule que se trouvait le colonel Salif Babadao de la garde nationale, lui qui avait quitté Bamako le mercredi 11 mai 2016 pour Gao. Le bilan est de 2 morts du côté des militaires maliens. Tous les blessés ont été évacués sur Gao pour suivre des soins intenses. Les assaillants qui ont commis ce forfait étaient tous sur des motos dans une course engagée aux côtés du convoi. Le dit convoi a également essuyé des tirs. Aucune identité des assaillants n'a été connue, mais l'armée malienne continue de mener des investigations. A rappelé que dans la nuit du lundi au mardi, c'est un autre camp de l'armée malienne qui a été attaqué à Bamba, dans la région de Gao. Un militaire et un assaillant ont été tués. Les assaillants voulaient s'emparer des armements des soldats maliens, mais ils sont repartis bredouille. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La réconciliation en Côte d'Ivoire maintenant. La ministre ivoirienne de la cohésion sociale, Maria Tokoné, a entamé hier une visite au Ghana. Elle veut rassurer des milliers d'exilés pro-Gbagbo et les exhorter à rentrer au pays natal. Le point avec Maïlis Hegel.
Avant le Ghana, la ministre ivoirienne Maria Tukone avait séjourné du 3 au 7 mai au Liberia, qui accueille des milliers de réfugiés ivoiriens depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Elle a expliqué qu'elle vient dire à ses frères qu'ils ne risquent rien à leur retour en Côte d'Ivoire. Il y a environ 58 000 réfugiés ivoiriens au Liberia et près de 10 000 au Ghana, pour la plupart des exilés politiques. Leur retour est devenu un enjeu pour la réconciliation nationale si chère au président Alassane Ouattara. Le 11 avril, au Ghana, la mort en exil de l'homme politique Mamadou Ben Soumaoro avait suscité une vive émotion, poussant le gouvernement à faire plus d'efforts. Le mois dernier, Mgr Siméon Awana, président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, avait tiré la sonnette d'alarme, disant que le malaise est profond et qu'il convient de mettre un accent particulier sur les initiatives en faveur de la réconciliation.
Sénégal, le festival annuel de jazz de Saint-Louis dans le nord du pays a commencé mercredi sous haute surveillance. L'événement qui se tiendra jusqu'au 16 mai a été à l'origine d'une brève interdiction par le préfet qui craignait pour la sécurité. Près de 600 hommes ont été déployés pour protéger cette grande fête musicale. Les explications d'Alex Tandeng, chargé de la communication du festival de jazz de Saint-Louis du Sénégal.
C'est une atmosphère de grands moments, de grands événements, une atmosphère de retrouvailles, d'ambiance, d'enthousiasme et beaucoup de joie qui se lie à travers en fait, le visage de tous les Saint-Louisiens, de tous ceux qui ont voulu faire le déplacement pour cette 24e édition du Festival international de jazz. Certainement, vous êtes en train de percevoir l'ambiance tout autour pour laquelle, effectivement, nous nous sommes battus pour pouvoir démarrer en fait, les premières notes de ce festival aujourd'hui, 11, coïncidant avec l'anniversaire de Bob Marley. Sur les plateaux pour aujourd'hui, nous avons Sao. Sao, c'est un jeune prodige de la musique sénégalaise africaine, mondiale un peu, qui fait en fait un gros tabac aujourd'hui. Également pour ce soir, il était prévu en fait un concert de Bob Marley, mais malheureusement qui ne se tiendra pas. À sa place, il y aura Pinchel. Après, nous aurons Lunette Dembo. Le festival durera jusqu'au lundi, c'est-à-dire tout le week-end de la Pentecôte.
Alex Tandeng, chargé de la communication du Festival de jazz de Saint-Louis du Sénégal.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Comores, le colonel Azali Assoumani, ex-putschiste, a été élu président à l'issue d'un scrutin partiel mercredi dans 13 bureaux de vote en juin, où le second tour de la présidentielle avait été entaché de violence. C'est ce qu'indiquent les résultats provisoires rendus publics aujourd'hui par Nadjaé Alaoui, vice-présidente de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le colonel Assoumani a obtenu 2271 voix contre 1308 pour son rival, le candidat du pouvoir sortant, le vice-président Mohamed Ali Soili dit Mamadou. La Cour constitutionnelle comorienne, qui peut être saisie de recours, a 5 jours pour proclamer les résultats définitifs. Le nouveau président doit être investi le 26 mai. En Ouganda, prestation de serment ce jeudi du président ougandais Yoweri Museveni, réélu au mois de février. Hier, la police a interpellé l'opposant et candidat malheureux Kizza Besigye, qui avait organisé sa propre prestation de serment à Kampala. Les précisions de Nani Talani.
Arrivé au pouvoir par coup d'État en 1986, Yoweri Museveni, qui est âgé de 71 ans, entame ce jour son 5e mandat. La commission électorale ougandaise l'avait proclamé vainqueur de la présidentielle de février avec 60% des voix contre 35% à son adversaire Kizza Besigye, leader du Forum pour le changement démocratique, des résultats que ce dernier a rejetés, faisant état de fraude massive. Depuis lors, la police a dispersé plusieurs manifestations de ses partisans, la dernière mercredi, au cours de laquelle Besigye s'est fait investir président. Pour le porte-parole de la police ougandaise, Patrick Onyango, il s'agissait de la violation d'une décision de justice interdisant à Besigye de prendre part à des manifestations. Ces derniers jours, des unités de l'armée et la police patrouillaient les rues de Kampala sur la base de soupçons que les militants de l'opposition pourraient tenter de perturber la prestation de serment du président Museveni.
Au Tchad, certains agents de l'État qui exercent un double emploi sont sanctionnés par une décision du ministère des Finances. Désormais, ils verront le tiers de leur salaire mensuel retenu à la source pour rembourser ce qu'ils ont gagné pendant qu'ils étaient intégrés dans la fonction publique, tout en continuant à travailler dans le secteur privé. Regroupés en collectif, les enseignants visés par cette décision crient à l'injustice. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi à N'Djamena, le collectif des enseignants frappés par cette décision se dit surpris de la publication de la liste des 402 agents de l'État présumés en position de double emploi par le ministère des Finances et du Budget. Ces agents qui avaient double emploi sont soumis de rembourser à l'État tchadien les salaires indus perçus depuis la date de leur intégration à la fonction publique jusqu'à la cessation des activités dans le privé. Le porte-parole du dit collectif, Natoy Alaringar, trouve cette décision inadmissible.
Certains parmi nous sont déjà paralysés, d'autres commencent à devenir fous et certains sont morts. Alors imaginez, ce n'est pas quand même digne d'un fonctionnaire d'être traité de la sorte. Parler de double emploi, même d'abord, c'est faux. Si seulement ces fonctionnaires émergent deux fois sur le compte de l'État, on peut parler d'un double emploi. Mais quelqu'un il travaille sur le compte de l'État comme un enseignant, le plus souvent, de 7 à 12 heures, les gens sont dans les établissements, ça dépend du lycée ou quelque chose comme ça. Mais de 15 heures jusqu'à, je sais pas, jusqu'à X heures, ça c'est du temps libre. Et chacun puisse vraiment se battre pour joindre les deux bouts, puisque le salaire de l'État ne suffit pas. Et maintenant, on dit on va amputer les un tiers de vos salaires. Il y a des fonctionnaires qui gagnent 150 000 par mois. Et il a des crédits à la banque. Peut-être que la banque lui coupe 50 000. Il a 100 000. Et dans les centres, on coupe 50 000. Ça va refaire 5. Imaginez, c'est vrai de louer la maison. Une maison en Djamena coûte au moins 30 000. Le sac de 1000, c'est à 25 000. Il y a une certaine de vie. Avec un 50 000, par comment un ancien peut vivre? Ce n'est pas tout possible. Donc, ça, c'est un vol. Et là, c'est clair que l'opinion internationale soit saisie et qu'on trouve une solution.
Pour Dingam Nadi Samson, l'une des victimes, cette décision vise à soumettre les enseignants et toutes leurs familles à une mort lente.
Dès 2014, on nous a contraints à démissionner dans la boîte privée. Aujourd'hui, si nous avons démissionné et que nous nous consacrons à travailler uniquement pour le compte de l'État, il n'y a pas de raison pour que l'État vienne encore nous demander de remboursement. Qu'est-ce qu'on a fait pour rembourser? D'ailleurs, il faut voir quelle activité nous avons pratiquée dans la boîte privée. On était des gardiens et si un fonctionnaire de l'État qui se transforme en gardien de nuit pour subvenir aux besoins de sa famille, même l'État djadien n'a pas honte. C'est une façon de nous tuer lentement, on ne comprend pas. Et en toute sincérité, même le moral là est complètement bas. Quel enseignant aura même le courage, par exemple, de travailler convenablement comme il a commencé?
Les membres de ce collectif qualifient le fait de couper un tiers de leur salaire mensuel pour rembourser ce qu'ils auraient perçu indûment d'une forme d'esclavage moderne et interpellent les associations pour la défense des droits de l'homme de les aider à entrer dans leurs droits. André Kodumajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. Au Brésil, la présidente Dilma Rousseff a été suspendue ce jeudi de ses fonctions par le Sénat, qui va la soumettre ensuite à un procès en destitution pour maquillage des comptes publics. Un total de 55 sénateurs sur 81 ont voté la mise en accusation de l'impopulaire dirigeante de gauche et 22 ont voté contre. Elle sera remplacée dans la journée par son vice-président Michel Temer, qu'elle accuse de coup d'état institutionnel en attendant le jugement final des sénateurs d'ici à 6 mois. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.